De nombreux grands hommes lui doivent beaucoup. C'était une femme de tête.
Souvent, on a pu la présenter comme une égérie. D'abord, elle était très belle, assez insaisissable. On disait que les hommes étaient fous d'elle, mais on disait en même temps qu'elle était frigide. Il y avait des phrases extrêmement misogynes et sexistes sur elle. Comme elle n'avait pas de poitrine, on se moquait d'elle. On disait qu'elle était un petit peu homasse, parce qu'une vraie femme devrait avoir des formes. Et donc, elle traînait toute cette réputation sulfureuse-là, donc de femme objet. Mais c'était avant tout un sujet. Et effectivement, elle a fait certains des hommes qu'elle a rencontrés. Alors Nietzsche, et on peut aussi parler de Rilke.
Prénom ?
Lou, abréviation de Lyolia. Andreas Salomé. Andreas, le nom de son mari, savant iranologue. Salomé, nom de son père, conseiller du tsar.
Date de naissance ?
1861, l'année de l'abolition du servage en Russie. Son enfance et son adolescence se déroulent à Saint-Pétersbourg, dans un milieu aimant qu'elle voudra toujours reproduire à sa manière. Le premier homme à tomber amoureux d'elle, un pasteur, Hendrik Gillot, qui en même temps que les grands penseurs lui fait découvrir la force que peut avoir le désir.
Ses études ?
Philosophie, histoire de l'art à Zurich, première étape d'une vie longtemps marquée par la participation aux cercles intellectuels européens les plus brillants, par le voyage.
Et pour commencer, un voyage à Rome.
Elle y rencontre Paul Rey et Nietzsche, avec lequel la vie commune sera courte, mais elle lui consacrera un livre décisif en 1894. Rey, Nietzsche, elle aime bien les trinités, un duo et en même temps un tiers.
Puis, un voyage à Berlin.
Elle y fréquente notamment les milieux théâtraux pionniers. Elle va assurer des chroniques dans ce domaine et publier les personnages féminins dans le théâtre d'Ibsen.
Elle ira aussi à Munich.
C'est là qu'elle fait la connaissance de René Maria Rilke, qu'elle va rebaptiser Rainer Maria Rilke, et qu'elle aide à sortir de sa chrysalide. C'est un amour capital qui va se transformer en amitié toujours vive. De ses voyages en Russie avec lui, elle va rapporter des carnets très singuliers.
Et elle est mariée, donc ?
Bah oui, mais à sa façon, avec le professeur Andreas, dès 1887 et jusqu'à la mort de celui-ci, en 1930, sur la maison de Göttingen, la paix de Lou, où il s'installe dès 1903, deux plaques dédiées, l'une au savant, l'autre à l'écrivaine qui faisait chambre à part.
Et la psychanalyse ?
L'accomplissement d'une vie qui l'attendait, la pressentait. Elle publie ainsi, dès 1910, un livre intitulé « L'érotisme », un an avant de rencontrer Freud. Elle est formée par lui à la cure. Freud qui lui envoie de nombreux patients.
Ces dernières années,
assombrée par le nazisme, mais éclairée par la présence d'un dernier disciple, Ernst Pfeiffer, qui va protester contre la saisie de sa bibliothèque par les nazis.
Et sa mort ?
Le 3 février 1937, peu après son 76e anniversaire.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ? Je vous écoute.
Alors les films, les livres qui sont consacrés à Lou Andreas Salomé insistent à raison sur son rôle d'égérie. Elle a vécu longtemps au centre d'une ronde des désirs, mais en veillant généralement à la contrôler. Ses compagnons n'étaient pas nécessairement ses amants, non plus que son mari d'ailleurs, mais quelle importance ! Elle avait une conception superlative de l'amitié. Sans elle, qu'auraient été tous ces hommes ? Sans eux, qu'aurait été son œuvre ? Car elle en a eu une, des romans nourris de l'acquiescement à la vie et des essais toujours à la recherche d'une vie qui n'aurait pas de limite.
Peut-on revenir un instant sur son enfance et son adolescence en Russie ?
À propos de l'enfance, juste une petite parenthèse. Londres Salomé parle beaucoup de son enfance et de son adolescence, mais il faut voir qu'elle en parle toujours tard. Et qu'elle en parle non seulement après l'expérience de sa rencontre avec ces hommes dont elle sera l'égérie. Vous avez raison de souligner le caractère cliché, hein, de toujours l'égérie, la muse, etc. Lou est une femme qui instrumentalise beaucoup les êtres qu'elle rencontre, pas le contraire. Mais lorsqu'elle parle de son enfance, lorsqu'elle parle de son expérience de Dieu, de la perte de Dieu, de ses premiers amours, elle en parle alors qu'elle est déjà psychanalyste. Donc il y a chez Lou Andrea Salomé une reconstruction très consciente, très élaborée, rétrospective. Elle fait œuvre de littérature. Donc en ce sens, on peut se poser la question générale de ce qu'est une autobiographie. Donc elle est vraisemblablement sincère, mais elle sélectionne beaucoup et elle réinterprète un certain nombre de souvenirs avec le vocabulaire acquis entre-temps. Mais comment faire autrement ?
Merci d'avoir permis cette parenthèse de Dorian Astor. Oui, alors, si on croit ce qu'elle n'a pas détruit de ce qu'elle a écrit. Elle a eu une enfance très entourée avec un père exceptionnellement attentif, tout général et conseiller du tsar qu'il fut. Et plus tard, alors que la foi, on l'a dit, l'avait déjà abandonnée, son éducation philosophique a été assurée par un pasteur attaché à la légation néerlandaise de Saint-Pétersbourg, Henrik Gillot, qui eut cependant le tort de lui déclarer sa flamme. Je me sentais plutôt dans la peau d'un jeune garçon prêt à vivre que dans celle d'une jeune fille câline. Notre premier interlocuteur, Stéphane Michaud, germaniste, biographe, traducteur, éditeur de Lou Andrea Salomé.
Mais alors, où est donc Lou Andrea Salomé dans ce jeu où elle a procédé à des coupures terribles dans son journal, où on voudra lire ce qui n'y est pas déposé en l'accusant déjà de toutes sortes de choses plutôt que de lire ce qui y est. Elle ne dira que très peu de choses. Le reste, c'est son secret. Il n'appartient à personne.
Tout esprit profond a besoin d'un masque. Je dirais plus encore, autour de tout esprit profond croît et s'épanouit sans cesse un masque. Friedrich Nietzsche.
Nietzsche, donc. Nous sommes en 1882, Lou Salomé a 21 ans à peine. Après un moment d'études à Zurich, elle rejoint Rome. La mobilité sera longtemps son mode de vie. Et à Rome, elle fréquente le cercle d'une exilée allemande, Malvida von Mesenburg. Elle s'y rapproche d'un philosophe qui va surgir, et quel personnage ?
Lorsqu'elle en vient à Nietzsche, elle découvre une pensée qui est bondissante, une pensée qui est gaie. L'un des livres de Nietzsche s'appelle précisément « Le gai savoir ». Et le problème est d'envoyer promener toutes les fausses valeurs, je dirais, tout ce qui empèse la pensée et empeser équivaut très clairement à empêcher. Donc Nietzsche est celui qui prendra pour modèle Christophe Colomb, qui a été découvrir un nouveau monde et qui ne craignait pas les longues navigations. Alors, la rencontre avec Nietzsche, je vous le donne en mille, je crois que quelqu'un qui n'a pas accédé aux documents ne le sait pas, eh bien elle a lieu à Saint-Pierre de Rome, dans un confessionnal. Alors vous allez me dire, mais qui joue là quel rôle ? Eh bien, pour attendre, parce que l'attente risquait d'être un petit peu longue, pour attendre, Lou Andrea Salomé s'est réfugié dans un confessionnal qui était vide, et Nietzsche qui arrive, a beau voir à travers les grilles du confessionnal cette jeune femme, son premier mot, c'est « De quelles étoiles êtes-vous tombé pour cette rencontre qui a lieu tout de suite ?» Vous sentez qu'on est en pleine histoire, bien sûr, mais en même temps, de toute évidence, dans un monde onirique qui ne quittera pas Lou Andrea Salomé. Les amis de Lou Andrea Salomé ont tous, quoi qu'il arrive, un seul et même désir, c'est l'épouser tout de suite. Mais là, ils se trompent d'adresse.
Paul Rey, assis sur un prie-dieu très bien orienté vers la lumière, était plongé dans ses notes de travail avec ferveur et piété. On avait envoyé Nietzsche nous rejoindre. Les premiers mots qu'il m'adressa furent de quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous rencontrer ? Mais ce qui commençait si bien prit une tournure qui nous plongea, Paul Ray et moi, dans de nouveaux tracas quant à notre projet de trinité. Car le troisième arrivant venait le compliquer de façon imprévisible. Certes, Nietzsche pensait plutôt simplifier la situation. Il fit de Ray son intercesseur pour me demander en mariage. Très ennuyés, nous cherchâmes un moyen d'arranger les choses au mieux sans menacer notre trinité.
En fait, dans cette relation Ray, Nietzsche, Lou, Lou veut rester inconnaissable. Il ne faut pas croire que l'amour soit la vérité, et puis faut-il donner tant d'importance à la jouissance. Nietzsche, dans sa correspondance d'ailleurs, la présente comme une conseillère, et plus tard elle sera l'ambassadrice de sa pensée. Les hommes qu'elle a élus lui doivent beaucoup. Mais si les relations ne sont pas à sens unique, elle entend qu'elles soient marquées par des étapes, des paliers, avec des descentes en attendant d'éventuelles remontées. Chaque étape exige que soit négociée la perte qu'elle provoque. Et Nietzsche n'était pas nécessairement prêt à ça. L'éloignement de Lou va l'enfermer dans une vie de douleur.
J'ai partagé avec elle un moment unique sur le lac d'Horta, le seul moment unique que j'ai jamais connu. Personne n'est jamais tombé amoureux de moi. Personne.
Frédéric, ce fut un moment unique pour vous peut-être, mais pas pour elle.
Qu'est-ce que vous dites ?
C'est étrange cette association de l'ascétisme avec la sexualité, association paradoxale, mais qui, chez Lou, avait un sens. Une fois Nietzsche, qui ne pouvait entendre cela, enfoncé dans un autre monde, Lou lui est pourtant demeuré fidèle. Elle ne va rien dévoiler de ce qu'ils ont vécu, elle ne répond pas aux questions qui lui sont sans cesse posées, même quand c'est Freud qui les lui adresse. Et alors quand c'est André Malraux qui aurait demandé « L'avez-vous embrassé ?», on devine qu'il n'y a pas de réponse. En revanche, elle a voulu faire connaître la pensée de Nietzsche, la restituant dans un livre de 1894, et la faisant pressentir dans un roman dès 1885.
Elle écrit un roman, et lorsqu'elle publie son premier roman en 1885, qui s'appelle « Combat pour Dieu » et qui est construit autour de la figure romanesque de Nietzsche, cet ouvrage, elle l'écrit à la fois pour se décharger d'une expérience et pour asseoir son autorité comme femme de lettres. Le roman est publié en Allemagne et lu, a même un certain écho. Nietzsche lui-même est bien obligé de reconnaître que le roman n'est pas sans faiblesse, mais qu'il a une véritable vigueur. Et donc, Lou Andrea Salomé se heurte à cette difficulté que on parle d'elle sans qu'elle ait levé le petit doigt. Elle est une personne publique.
On dirait aujourd'hui une célébrité. C'est une célébrité que le professeur Andreas accepte d'épouser en 1887 dans une cérémonie présidée par le pasteur Gillot. De retour, l'amoureux transit Saint-Pétersbourg. Le professeur Andreas aurait pu espérer apprendre d'elle l'érotisme, mais elle entend en faire à sa tête. Ses publications assurent l'indépendance à Lou qui se joue des convenances et qui franchit aussi allègrement les frontières entre les États d'Europe et les barrières entre les milieux. Notre deuxième interlocutrice, Sarah Chiche, psychanalyste, écrivaine, grande lectrice de Lou depuis l'adolescence.
Lou Andrea Salomé ne pouvait vivre que dans l'intersection entre plusieurs mondes, le monde littéraire, le monde artistique, le monde de la psychanalyse, le monde universitaire aussi par son mari, et ainsi elle passait d'un cercle à l'autre avec une facilité déconcertante.
Et l'intersection entre les pays, parce qu'il y a quelque chose de cosmopolite ou de profondément européen à l'ancienne dans ses déplacements et son comportement.
Oui, avec toute cette imagerie, c'est vrai, de l'époque du grand voyage. Puis la formation intellectuelle s'accomplit comme cela.
S'il est un pays qui est à la jointure de l'Est et de l'Ouest, c'est son pays de naissance, la Russie, qui l'attire toujours. La Volga, ma petite mère, Moscou, ma petite mère. Dans peu de temps, Stravinsky va composer Petrouchka, une place d'une ville de Russie, des forains.
Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, Lou Andreas Salomé parcourt l'Europe. Zurich, Rome, Vienne, Berlin, bientôt Paris. Mais elle retournera également deux fois en Russie.
Et elle leur apporte des carnets qui révèlent des aspects inattendus. Elle est attirée par les formes liturgiques et populaires de la religion orthodoxe. Dans l'antique Russie, écrit-elle, la construction des églises est-elle affaire du peuple tout entier? Et ce qui la préoccupe, c'est la discordance entre les Russes cultivés et le peuple. Ils prétendent aimer le peuple et ils sont incapables de le traiter avec égalité. La grande question de l'intelligentsia russe, dont elle espère qu'elle puisse être résolue par un poète moujik, Spiridon Androgine, qu'elle visite longuement, ou bien sûr par le patriarche Léon Tolstoï. Elle n'est pas seule en Russie. Il y a les Poux. Et puis, il y a une figure tierce, peut-être même centrale, le jeune poète Rilke, rencontré en 1897, et qui va devenir la personne la plus considérable dans sa vie.
Quand elle le rencontre, c'est un jeune poète très exalté, mais sa poésie à l'époque est extrêmement académique. Et elle va le pousser de tout son être à se débarrasser d'une certaine gangue, d'un certain style ampoulé pour aller au plus pur et au plus tranchant de son mal-être. Elle va organiser un voyage en Russie pour lui faire rencontrer Tolstoï. Elle va le baptiser. Au début, il s'appelle René Maria. Elle trouve que c'est un petit peu féminin. Il faut savoir que Rilke avait eu une mère absolument épouvantable qui l'habillait comme une fille et le féminisait à loisir. Et donc, elle va lui redonner quelque chose d'une virilité dont il semblait dépossédé. Elle lui dit « Appelle-toi Rainer ». C'est plus viril. C'est ainsi qu'elle lui a dit vraisemblablement. Et donc, il tombe éperdument amoureux d'elle. À ce moment-là, vraisemblablement, ça a été une passion charnelle qui était sans doute une première pour elle. Il y avait une grande différence d'âge aussi. Elle était nettement plus âgée que lui. Enfin, elle avait 36 ans, lui 22. Ce qui était aussi une cause de scandale à l'époque, mais qui indique quelque chose de sa liberté. C'est une femme qui faisait écrire les hommes, qui les faisait créer.
Oui, à l'issue du deuxième voyage en Russie, le ton va changer entre les deux amants et Lou. On vient de parler avec Sarah Chiche de la différence d'âge. Elle s'adresse de plus en plus à son cadet Rilke comme une mère. Et il s'en ira à Paris, auprès de Rodin. Mais ils resteront amis autant qu'on peut l'être, c'est-à-dire totalement.
On a l'impression qu'au fond, elle ne se sépare pas. Après la passion charnelle avec Rilke, ils restent amis autant qu'on peut l'être, une correspondance continue. Voilà, alors Nietzsche rompt, mais elle continue quand même à ne pas se séparer de lui en écrivant son livre sur Nietzsche. Et de même, elle ne quittera jamais son mari. Son mari aura beau mener sa vie, s'installant au rez-de-chaussée avec une employée de maison avec qui il fera un enfant, parce qu'elle ne couche pas avec son mari. Voilà, ils resteront mari et femme jusqu'à la mort de ce dernier en 1930. Donc il n'y a pas de séparation. Au fond, je crois que c'est quelqu'un qui refuse la perte ou qui négocie avec le manque en permanence. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de manque, puisque l'objet est toujours là, sous une modalité qui peut évoluer. Et ainsi, cet élan vital peut se perpétrer.
Mais la séparation ajoute même une dimension supplémentaire à celui dont on est séparé.
Oui, sans doute. C'est-à-dire qu'il regagne quelque chose de la figure idéale. C'est-à-dire que dès l'instant où c'est plus corrompu peut-être par le charnel, eh bien, voilà, Rilke regagne sans doute toute sa pureté d'immense poète dès l'instant où, elle ne vit plus avec lui cette passion charnelle échevelée.
Mais vous l'avez lu de près, vous l'avez aimé, la correspondance avec Rilke ?
Oui, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Il y a un passage, quand elle lui écrit « Si j'ai été pendant des années ta femme, c'est parce que tu as été pour moi la première réalité tangible, le premier être humain chez qui le corps et la personne étaient indissociables, évident comme la vie. J'aurais pu te dire mot pour mot ce que tu m'as dit en m'avouant ton amour, toi seul et réel. » C'est ainsi que nous sommes devenus mari et femme avant même de devenir des amis, et cette amitié ne fut guère le fruit d'un choix mais de noces clandestines. Bon, il y a des choses très belles qui sont dites là sur l'amitié et l'estime dans l'amour, le caractère charnel, intellectuel, spirituel. Et puis, on la décrit comme un être glacé, mais dans la correspondance avec Rilke, on la voit véritablement s'inquiéter pour lui. Quand lui est ravagé par ses angoisses et sa dépression profonde, elle le supplie de prendre soin de lui.
Et la dernière lettre de Rilke, quelques mois avant sa mort, c'est d'une clinique pour lui dire qu'il est recouvert par la souffrance, et on voit bien qu'il fait appel à elle.
Oui, oui, jusqu'au bout, au fond. Et voilà, quels que furent les aléas de la passion.
Et ceci, en 1925, dans les derniers mois, justement, de Rilke, Lou lui écrit « C'est moi que Dieu a rendu coupable en ne me permettant pas de mettre à ta disposition, lorsque nous nous sommes connus, mon savoir et ma pénétration d'aujourd'hui. Que ne l'a-t-elle rencontré après son entrée en psychanalyse ?» Et ceci encore, 8 ans après la disparition de Rilke, alors qu'elle a relu les papiers que le poète lui a laissés dans sa succession. Elle note dans ses carnets intimes des dernières années.
Après ma séparation d'un partenaire, son absence n'enlevait rien à l'amour que je lui portais, mais lui donnait, après coup, une importance nouvelle. Car il échappait ainsi aux exagérations déformantes que l'amour surimposait à son individualité. Il recouvrait sa réalité propre, et mon regard serein, sans poser de conditions ni d'exigences, lui portait l'intérêt qu'on appelle objectif, et qui ne signifie pas seulement une absence d'amour et d'inclination intime, mais une attention à la réalité environnante dont nous faisons partie et que nous cherchons à rendre hospitalière. Mais je conviens franchement que ce plaidoyer pourrait chez moi paraître un peu trop appuyé. Tout simplement parce que, de nature, je ne connais, peu importe si c'est un tort ou un mérite, que ce double désir de communion et de lucidité objective et réfléchie. Aussi, ma vie durant, tous les enjeux intellectuels ont-ils pris pour moi l'allure de passion, tandis que toutes mes passions restaient soumises à un besoin de clarification.
On ne dit pas assez que, dans toutes ses vies multiformes, Lou a tenu la chronique théâtrale, alors essentielle, dans différentes publications. Et que, parmi les fréquentations qu'elle a eues, elle a bien connu, à Berlin et à Paris, les milieux théâtraux. Elle a consacré un livre à Ibsen, qui tenait alors le haut du pavé, dont les personnages féminins l'ont inspiré. Ainsi, la Dame de la Mer, interprétée par Sylvia Monfort. Elle a laissé la porte ouverte et pénètre un marin qu'elle a connu naguère.
Que me voulez-vous ? Un jour, je t'ai promis de revenir.
Partez. Allez-vous-en, ne revenez jamais ici. Je vous écris que tout était fini.
Je n'ai pas pu venir plus tôt, mais je n'ai pas oublié. Je suis là comme je te l'avais promis.
Que me voulez-vous? Que faites-vous là?
Je suis venu te chercher.
Vous cherchez?
Oui.
Je suis marié, vous le savez.
Oui.
Malgré cela, vous voulez?
Oui.
Ce regard... Ah, ce regard...
Tu ne veux pas venir avec moi?
Ne me regardez pas.
Je t'ai demandé si tu voulais me suivre.
Non. Non, jamais, jamais. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je n'ose pas.
C'est bien. Je n'ai qu'une chose à te dire avant de partir.
Ne me touchez pas. Ne m'approchez pas. Je vous dis de ne pas me toucher.
Je ne te ferai rien.
Ne me regardez pas.
N'aie pas peur. N'aie pas peur.
Elle s'est formée, on l'a vu dans le domaine intellectuel, à l'école des philosophes allemands, français, des moralistes français. Elle s'est formée à l'école d'Ibsen aussi, dont elle a été l'une des premières à présenter un livre sur les femmes chez Ibsen. Au fond, c'est quelqu'un pour qui la recherche est fondamentale. Au fond, elle ne prend pas la vie telle qu'elle lui est donnée, mais il s'agit de la modeler et de lui donner sens. Et du coup, lorsque Buba lui propose, c'est en 1910, d'écrire un livre sur l'amour, eh bien, elle ne voudra pas du titre l'amour, mais l'érotisme, précisément pour que cette composante ne soit pas passée sous silence. Et à vrai dire, la société de 1910 est une société terriblement corsetée au sens premier du terme. Les femmes portent encore le corset. Et c'est d'ailleurs la première chose que Lou Andreas Salomé en verra promener. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'amour pour Lou Andreas Salomé? Précisément, un phénomène qu'il s'agit d'explorer et de savoir lire, mais pas avec les lunettes que l'on vous chausse sans vous demander votre avis. C'est-à-dire, il s'agit de pouvoir déchiffrer un phénomène pour lequel les préventions ont été tellement fortes, les pesanteurs sociales tellement lourdes, qu'elle cherche à l'approcher d'ailleurs avec les sciences de la nature. Elle a poussé très loin l'étude des sciences de la nature. Lou Andreas Salomé est aussi, je dirais, une scientifique qui est capable de descendre dans les déplis des sciences naturelles aussi. Et puis de la conscience et des zones les plus difficiles, au fond, ce devant quoi la plume se tairait, elle n'a pas cet arrêt.
Inter. Intelligence, service.
Si on va au plus profond, l'inconscient baigne déjà la pensée de Lou Andreas Salomé, qu'on pourrait dire organique, Dorian Astor.
L'inconscient, elle le dit, c'est aussi une manière pour elle de plonger dans le tout. C'est-à-dire que l'inconscient nous connecte directement à des forces de vie, et là on arrive sans doute au fond de l'affaire. Le tout chez Lou Andreas Salomé est assimilé à un principe vitaliste, c'est la vie, c'est la pulsion de vie. C'est la pulsion de vie. Alors, cette pulsion de vie, elle se décline chez Lou Andreas Salomé par l'intermédiaire des intellectuels qu'elle rencontre, c'est-à-dire qu'elle va assimiler de manière très instinctive cette pulsion de vie, cet instinct qu'elle a du principe vital de toute chose. Elle va évidemment l'assimiler très jeune à la volonté de puissance chez Nietzsche. Ce qui serait une vaste question qu'on peut pas développer ici, le savoir si Nietzsche lui-même est un vitaliste. Et elle va, dans l'analyse pulsionnelle de la psychanalyse, à travers le concept de libido, elle va évidemment comprendre la dimension essentiellement sexuelle de la libido chez Freud, évidemment. Mais pour elle, la pulsion sexuelle n'est au fond qu'un indice d'une pulsion de vie qui est plus large, qui embrasse davantage encore que la pure sexualité vitale. La mort n'est rien.
Donc, à cette période, Monsieur Lebrun, la pensée de Lou Andreas Salomé est mûre pour une rencontre avec Freud.
Ben oui, évidemment, c'est ce que disent tous les psychanalystes. Nous voici maintenant en 1911. La scène se déroule à Weimar, elle est racontée par Stéphane Michaud.
Cette rencontre entre Freud et Lou Andreas Salomé est tout à fait incroyable. Lou Andreas Salomé arrive juste à la cinquantaine. On pourrait, si on adopte le regard de l'époque, se dire que ça y est, sa vie est passée, et Dieu sait si elle a été brillante. Eh bien non, au contraire, tout va commencer. Et elle arrive là, accompagnée d'un psychothérapeute suédois, un certain Poul Bjerre, dont elle est l'amante, et qui la conduit à ce congrès de psychanalyse à Weimar en 1911. Donc, d'une certaine façon, elle est intéressée. Elle a écrit, il n'y a pas très longtemps, un ouvrage sur l'érotisme que lui a demandé Martin Buber, le théologien allemand. Elle est tout à fait passionnée par tous ces sujets, mais elle y arrive en femme de lettres. D'ailleurs, c'est de là que vient l'accueil qui lui est fait, qui est un accueil tout à fait remarquable. Freud avait une grande inquiétude. Qu'allait devenir sa psychanalyse lorsqu'il mourrait? Si elle se limitait à ses disciples, au cercle le plus étroit de ses disciples, est-ce qu'elle n'allait pas périr enfermée dans le monde juif? Eh bien, c'est au fond, je dirais, très, très important de voir que Lou Salomé a été d'une personne étonnante pour Freud, que Freud ait cette liberté de se moquer de Lou Salomé, qui lui dit « Oh, écoutez, c'est pas grave, je suis venu apprendre votre science. » Et Freud lui dit « Mais attendez, c'est pas l'affaire d'une d'une matinée ni d'un colloque, ça peut prendre plus de temps. » Et ça, c'est l'un des rires. Cet autre rire, c'est « Qu'en est-il de vous qui avez grandi dans une famille où vous étiez la seule fille ?» adoré par un père, et précisément vous voyez le monde comme si c'était une merveille incessante. Vous avez sans doute vite perdu la croyance en Dieu, mais vous n'avez pas perdu ce voile qui enveloppait toute existence. Donc Freud ne se cache pas de rire devant elle. C'est pas un rire arrogant ni sarcastique, mais c'est en revanche poser les termes dans une relation neuve. Freud sait que il a avec Lou Salomé quelqu'un qui est d'une totale liberté à son égard et qui ne lui fera pas défaut. Qui en même temps a autre chose à faire qu'à répéter le béaba comme un disciple maladroit et qui du coup affadit, affaiblit et ne fait rien de bien.
Quelqu'un qui, dans le rire ou le sourire, peut aussi faire un pas de côté parce que il y a un désaccord sur un point. Elle regarde toujours une ligne d'horizon au loin. Elle parle d'illimité, voire d'éternité, alors que Freud, qui se méfie de ce qu'il appelle la bouillie spirituelle, choisit de classer, de séparer, pour toujours mieux organiser sa rachiche.
Elle a été, en matière de psychanalyse, hérétique de façon acceptable, c'est-à-dire qu'elle a pris de la psychanalyse ce qu'elle pouvait incorporer à sa propre théorie. Sa question de l'élan vital, par exemple, voilà, il est vrai. Alors, cet élan vital premier. On dit que ça a probablement nourri l'écriture de certains points de pour introduire le narcissisme de Freud, sorti 3 ans après sa rencontre avec Lou Andrea Salomé. Mais elle, au fond, elle restera toujours campée sur ses positions. Par exemple, s'agissant de la religion, voilà, elle sait que pour Freud, c'est sans illusion. En tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans l'immédiateté de la pulsion, dans l'immédiateté de la phrase. Et Freud la traitera de géniale compreneuse. Elle n'organise pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu reprocher à ses textes théoriques, aussi bien qu'à ses romans. Bon, qu'est-ce qui est dû pour partie à la traduction et à la traduction de la traduction, ça, je ne sais pas, mais très à l'écoute, très intuitive, mais c'est pas une grande théoricienne. Voilà, donc au départ, ils ne se rejoindront pas du tout sur ce plan-là. Et puis tout de même, il va l'inviter aux fameuses séances du mercredi et elle sera tout à fait plus que tolérée et admise dans un cercle d'hommes.
Un instant, je vous prie. Docteur Freud.
Un des premiers soirs où le groupe de travail se réunit, il y avait seulement un an qu'une femme avait été admise à en faire partie. Freud dit en guise d'introduction que nous devions parler sans aucune retenue, ni pudeur, des sujets à l'étude, aussi choquants fussent-ils à de multiples égards. Avec la délicatesse de cœur dont il pouvait faire preuve parfois, il ajouta en plaisantant « Comme toujours, nous allons avoir de dures journées de travail, avec cette différence que nous avons maintenant, un rayon de soleil parmi nous. » Ce mot de « rayon de soleil » m'a semblé par la suite s'appliquer parfaitement à lui, et à son approche des choses qui étaient si riches en perspectives diverses. Même si dans le détail, elles étaient choquantes ou effrayantes, il y eut toujours pour moi un rayon de soleil derrière l'agitation des jours de travail. Dans ces moments de dégoût, Freud se montrait étonné de mon intérêt croissant pour la psychanalyse. Je ne fais pourtant rien d'autre qu'enseigner à laver le linge sale des gens. Même quand les choses extrêmement choquantes et repoussantes étaient mises à nu, le regard ne s'y attardait pas pour cette raison. C'est l'idée qu'exprima Freud un jour que nous abordions cette question. Mais il nota d'un air incrédule et étonné, et cette fois il ne se moquait pas de moi, « Même quand il est question des pires horreurs, vous avez un regard comme si c'était Noël. »
Au lendemain d'une opération de Freud à la mâchoire, Freud soigne un cancer. Il sait que sa vie va vers son terme. Elle durera encore longtemps, mais il sait que la mort l'habite. Et comme Lou Andrea Salomé est venu lui rendre visite dans le sanatorium où il essaye de refaire sa santé, il lui donne le bras, ou elle lui donne le bras pour se promener dans le jardin. Et Freud lui la regarde dans les yeux et lui pose cette question, comme à une femme qu'il aime beaucoup et qu'il respecte. Mais enfin, est-ce que vous croyez toujours que la vie, c'est comme Noël tous les jours? Et Lou Andrea Salomé a là un blanc. Il est évident que elle est bouleversée par cette remarque parfaitement juste d'un homme qui souffre, qui a la mort en lui-même et qui est son maître. Et du coup, faute de réponse, elle ne peut que serrer affectueusement le bras qu'elle a serré contre le sien.
Elle voulait vivre entourée de fleurs et de lys. Pour l'amour de Lou, les hommes sont trop humains, même les plus fous. Aimer Salomé, c'est adorer la vie, c'est démontrer ce qu'on fait.
France Inter. Intelligence Service.
Monsieur Lebrun, dans ces dernières années, Lou Andreas Salomé tient ses carnets intimes et elle y aborde sa vieillesse, avec une certaine sérénité. Elle y verrait même une plénitude.
En 1930, le professeur Andreas est mort. Lou s'est repliée seule dans leur maison de Göttingen, le nid toujours, mais dont elle ne s'envolera plus, le nid comme un accomplissement, la vieillesse comme un acquiescement à tout ce qui s'est déposé dans la vie.
Dans mes jeunes années, j'ai noté quelque part, d'abord, nous vivons notre jeunesse, ensuite, notre jeunesse vit en nous. J'aurais aujourd'hui encore bien du mal à expliquer mieux qu'autrefois ce que je voulais dire. Mais j'avais véritablement peur de ne pas atteindre l'âge de vivre cette expérience. Je le savais profondément. Une longue vie, avec toutes ses peines, vaut d'être vécue. Même avec l'inéluctable déchéance physique qui l'accompagne. Par-delà des déboires, la vieillesse acquiert bien plus que la fameuse aptitude à la sérénité et à la lucidité. Elle permet l'aboutissement de la durée à une plénitude plus achevée.
La voix de l'enfant et de la jeune fille ne s'est pas tue. C'est-à-dire qu'on a toujours pu l'entendre dans sa beauté, dans sa toute-puissante sauvagerie, et que, au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé. Elle ne renonçait pas à ses relations. Voilà, elle négociait en permanence avec la perte. Et donc, fort probablement, voilà sa façon de vivre la vieillesse, façon combien digne et belle et qui étant l'espèce à méditer, est à l'image de ce qu'elle a été toute sa vie. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a été confronté au vieillissement d'une femme, à la décrépitude d'une femme, en assistant sa mère dans les derniers moments de sa vie. Et probablement que, voilà, bon, on va pas faire parler les morts, mais ce qu'elle dit là est très digne et beau et doit aussi de cette expérience qu'elle a eue auprès de sa mère.
D'abord, nous vivons notre jeunesse, puis la jeunesse vit en nous.
On retrouve là toute cette pensée vitaliste, hein, cet élan vital premier qui lui est cher, au fond, voilà, et qui l'accompagne jusqu'au dernier moment de sa vie.
Sauf que le nazisme l'emporte en 1933. On commence à Göttingen à l'appeler la sorcière de la colline. Comment protéger sa tour d'ivoire ? Alors il s'est dit souvent qu'elle n'ouvrait plus ses volets le matin.
Cette anecdote autour des volets qui restent clos, c'est probablement, oui, c'est une façon de ne pas vouloir voir frontalement l'horreur qui est derrière la porte. Hein, une juvénilité, aussi un maintien des mondes perdus. Sans doute probablement toujours ce drôle de rapport qu'elle avait à la perte. On refuse de perdre les choses, donc on ferme les yeux. On garde les volets clos, on ne regarde pas. Et on reste dans la contemplation de ces mondes perdus, de ces mondes engloutis. Et si les volets sont fermés, ben on ne voit plus la croix gammée, on voit juste ses livres et ses souvenirs.
Quand elle ouvre ses volets le matin, elle voit la croix gammée d'Hitler sur les volets du voisin. Alors ça, c'est plus qu'elle n'en peut supporter. Au fond, c'est une chose qui la torture. Un de ses derniers écrits... que j'ai eu la chance de lire parce que, au fond, j'ai insisté pour qu'il me soit donné à lire mes relations à l'Allemagne d'aujourd'hui, ou plus exactement mon appartenance à l'Allemagne d'aujourd'hui. C'est un texte que Lou Andreas Salomé a écrit très tard, en 1933 passé, et qu'elle a ensuite déchiré et jeté à la corbeille. Et son exécuteur testamentaire, Pfeiffer, l'a recollé et gardé dans les archives, et comme il avait l'impression qu'il avait accompli une sorte de geste impossible en sauvant un papier que Lou Andreas Salomé voulait jeter, évidemment il n'avait montré à personne. Et quand j'ai eu, une fois ma biographie achevée, mais pas encore livrée à l'éditeur, j'ai dit à Dorothée Pfeiffer, la fille de cet exécuteur testamentaire, avec laquelle j'avais gagné des relations de confiance. J'ai dit, écoutez, si vous me refusez le manuscrit, je vais être obligé de croire que, précisément, elle a tourné kazakh et elle s'est ralliée à l'hitlérisme. Alors là, pour le coup, elle me dit, mais attendez, si vous le prenez comme ça, non, je vous montre le texte absolument. Et Lou Andrea Salomé, il décrit précisément qu'elle est étrangère à cette Allemagne, qu'elle a été élevée dans le monde qui est celui de Saint-Pétersbourg, où régnait la liberté de Goethe. Et Goethe n'est pas un exemple de d'étroitesse d'esprit, de liberté amoureuse sûrement, de d'ampleur et de et d'ouverture à une vie dont on ne soupçonnait encore rien. Donc, Lou Andrea Salomé voit se fermer un monde alors qu'elle avait toute œuvré pour précisément aider un certain nombre de personnes qui étaient bloquées. C'est comme ça qu'elle a compris d'ailleurs la psychanalyse, comme une manière d'accéder à soi-même pour des personnes qui connaissaient un blocage dans leur vie. Au fond, cette fin de vie est une fin de vie terrible parce que elle n'a renoncé à rien au plus profond d'elle-même. Et voici qu'on s'emploie à rétrécir tout ce qu'elle a élargi pour elle-même dans son propre monde.
Mais les derniers mots du dernier carnet intime en 1937 portent encore comme un espoir. Je suis dans un embrassement sans l'étreinte des bras, mais pour l'accomplissement duquel il a fallu tout de même sa vie durant peiner sans trêve. Parce qu'elle a peiné, c'était pas tous les jours Noël. Merci à Sarah Chiche, auteure d'une histoire érotique de la psychanalyse, à Stéphane Michaud, qui a publié une biographie de Lou Andreas Salomé et traduit nombre de ses livres, les lectures Caroline Mounier, la prise de son Yves Lors, Yann Frécy, à la maison de la radio et de la musique Kevin Pelot, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille. Et samedi prochain, 9 octobre, intelligence service exceptionnelle, nous serons en direct à 18h depuis l'auditorium de l'abbé Grégoire à Blois, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire consacrée au travail. On posera la question du rapport de Marx avec le travail. Pour la plus-value de l'émission, affûtez vos questions, la parole vous sera donnée.